19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Allez, c'est parti, vous le savez. Bonsoir, chers amis auditeurs et auditrices. Bonsoir, bonsoir. Au sommaire de cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour commenter, analyser, décrypter l'actualité, vous le savez. Mais y compris avec vous, au 01 53 48 3000, chers amis auditeurs. Alors, au sommaire, au menu, qu'est-ce que je vous propose pour clore cette semaine? Nous reviendrons sur la déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui dit Macron veut augmenter son pouvoir et que, il dénonce les caprices de... Les caprices d'un monarque. Les caprices de monarque. Clochette. Ah ouais, ce qu'il faut pas dire chez les filles. Bon, en tout cas, on va en parler ce soir. L'affaire Chirikou, souvenez-vous, c'est un documentaire d'abord qui a été diffusé sur France 2 complément d'enquête. Et l'affaire Chirikou stabilise la France insoumise. Eh bien, figurez-vous que ça fait débat tout ça, ça secoue un peu le cocotier. Et on en parle tout à l'heure avec nos débatteurs influenceurs. Michel-Édouard Leclerc, l'homme d'influence, met en garde avant l'hiver. Justement, il met en garde sur quoi? Sur l'inflation, le pouvoir d'achat, mais surtout, il faut pas mentir. On les aura pas. Il dit la vérité, il dit attention, il faut pas mentir à tout le monde, aux Français. Et on en parle tout à l'heure au 01 53 48 3000 et notamment avec le débatteur influenceur. Et puis, vous le savez, dans une poignée de secondes, on va parler d'un événement, un bel événement. Un événement concernant Team Cyclo Cancer avec Olivier Digoud qui est le promoteur de cet événement. On va parler juste après, et bien évidemment, ce générique. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Olivier Digoud, promoteur de cet événement qui se tient dimanche, Team Cyclo Cancer. Bonjour Olivier.
Bonjour Monsieur Farkan, merci de me recevoir sur votre antenne.
Écoutez, avec plaisir Olivier Digoud, justement. Alors vous êtes promoteur de cet événement Team Cyclo Cancer qui se déroule ce week-end, donc dimanche précisément. J'ai vu, c'est une action solidaire qui s'adresse à qui précisément, mon cher Olivier?
Alors, c'est une action solidaire et caritative qui s'adresse à tout public. Tout public, puisqu'on va rassembler effectivement des marcheurs, on va rassembler des cyclistes, sur des parcours non chronométrés et sur des parcours également encadrés. Tous cyclistes, j'entends les VAE, c'est-à-dire vélos électriques, sont bien entendu bien accueillis. Les vélos musculaires, comme on dit, les vélos TAF également. Tout le monde vient dès lors pour défendre la cause, c'est-à-dire le cancer chez l'enfant.
Ouais, c'est une randonnée cycliste, hein, on est d'accord, hein, et pédestre d'ailleurs, pour la lutte contre le cancer chez l'enfant. Vous avez bien raison de le préciser. D'ailleurs, on en parle très très peu, hein, et vous avez décidé de sensibiliser l'opinion pour ça.
On en parle très très peu, en effet, parce que cela concerne 1 à 2% des cas, en règle générale, et ça concerne 2500 enfants par an qui déclarent un cancer, malheureusement. Alors j'entends par les enfants de 0 à 18 ans. Et 2500 cas qui sont donc déclarés, ce sont des leucémies, ce sont les lymphomes malheureusement, atteintes du système nerveux central également. Donc on en parle peu évidemment, mais ce mois-ci dédié au cancer, il est important effectivement qu'il y ait un organe institutionnel, l'association Team Cyclo Cancer, qui appuie effectivement et qui sensibilise davantage sur la lutte contre le cancer chez l'enfant.
Ça se passe dans la ville d'Hermont hein, ce week-end, hein, dimanche oui, précisément. C'est la troisième édition, mon cher Olivier, hein, Digoud.
Alors, c'est la troisième édition valdoisienne et ce sera la 15e édition Team Cyclo Cancer. On a eu l'occasion, encore une fois, de mener des actions...
Ah oui, pardon, la troisième édition en 2022, excusez-moi. Oui, vous avez raison, vous avez raison.
Oui, troisième édition du Val d'Oise. Et puis, on a mené des opérations à Rouen, on a mené des opérations à Montélimar, à Lille, et on a fait également pour les cyclistes des diagonales ralliant Brest à Menton, ralliant Rouen à Montélimar en croisant 6 hôpitaux, auprès desquels on a été extrêmement bien accueillis, des services oncologiques, pour offrir des vélos d'appartement.
Ouais, parce que si on a déjà, vous avez des chiffres, hein, moi par exemple j'ai tous les ans c'est quelques 2500 enfants qui sont diagnostiqués d'un cancer en France, hein, et 500 en décèdent, hein. Donc effectivement on en parle peu, mais là il faut en parler.
Là il faut en parler, c'est très important. Alors parce qu'il faut sensibiliser effectivement le public. Pour un jeune enfant, vous comprenez que sa vie est totalement bouleversée dans les médias, puisqu'il doit recueillir, il doit être accueilli dans des systèmes hospitaliers. Sa vie, alors qu'il est en pleine construction de lui-même, est bouleversé, donc on doit lui construire un système, un environnement social beaucoup plus appuyé. Et ce que l'on a fait, par exemple, grâce à la Team Cyclo-Cancer, l'an dernier, on a construit et financé un mur d'escalade au sein de l'établissement de l'hôpital des enfants de Margency. Cette année, j'espère évidemment, on va récolter des dons grâce à cette troisième épreuve pour offrir des vélos d'appartement. C'est mon souhait, personnellement. On combine, effectivement, on se rapproche du service et des professionnels de santé pour savoir quel sera l'usage, effectivement, des dons apportés. L'essentiel, c'est de pouvoir accompagner les enfants pendant la période de soins au travers du sport santé, par exemple.
Oui. Alors, autre question, évidemment, que beaucoup se posent, ce cancer pédiatrique, hein, parce que j'aimerais quand même qu'on dise, la maladie, elle se caractérise comment, justement, chez l'enfant ? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus ?
Alors, écoutez, la maladie se déclare effectivement de façon un peu insidue, parce que on est très loin d'imaginer que son enfant est atteint de cette maladie. Donc ça se traduit par des fortes poussées de fièvre, ça se traduit par des pâleurs, l'enfant commence à ne plus jouer, l'enfant a des difficultés pour s'endormir. Et puis il faut bien savoir que les cancers ont un taux de 5% pour cause héréditaire seulement. Alors d'autant plus que les origines sont totalement inconnues. L'environnement dans lequel évolue l'enfant, évidemment, n'est pas un environnement de stress, n'est pas un environnement avec des addictions qui pousseraient effectivement, ou des mauvaises consommations qui pousseraient à déclarer cette maladie. On est encore dans l'inconnu pour déceler effectivement un cancer chez un enfant. À côté, il y a tout de suite une structure qui se met en place, et très rapidement, parce que le cancer chez l'enfant se développe très très vite.
Très très vite. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui partout en France, justement concernant cette campagne et puis sur cet événement que vous organisez, et puis surtout cette j'ai envie de dire ce cancer chez l'enfant qui représente à 1-2%, vous l'avez dit tout à l'heure, et qui est encore méconnu, hein, évidemment on en parle très peu.
Oui, oui. J'ai envie de dire, et ça depuis des années que j'accompagne Patrice Martin, le président de la Team Cyclo-Cancer, j'ai envie de dire que nous traversons malheureusement des périodes compliquées, et vous savez très bien aussi ce qui s'est passé dans les pays nord-africains. Malheureusement, on a besoin de solidarité, on a besoin de serrer les coudes, parce qu'on peut être concerné à un moment ou un autre déjà par déjà par un fléau, et il faut savoir se resserrer, et il faut savoir se rendre solidaire à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai envie de dire encore ? J'ai envie de dire,
rendez-vous à ne pas manquer, surtout dimanche.
Surtout à ne pas manquer. Alors on va assister effectivement et accueillir les enfants à ce moment-là qui vont témoigner. Le corps médical sera également présent, les officiels seront présents. J'aurai le plaisir d'animer effectivement cette session et accompagner de l'homme au 21 Tour de France. Un VTT est à gagner également, et puis on offre des goodies, on offre également un ravitaillement pour les personnes dès leur arrivée. C'est à partir de 7h30, ensuite on arrive au rythme voulu, et à partir de 11h45, on démarre le podium protocolaire. Jusqu'à la remise du vélo.
7h30, précisons, AM, hein, le matin.
Et exactement, ouais. Le matin, oui, à partir de 7h30.
Bon, à Hermont, à ne pas manquer, donc grand rendez-vous, je vous le dis.
Grand rendez-vous.
Et absolument à ne pas manquer sur la ville d'Hermont. Donc, Team Cyclo Cancer. Merci Olivier Dijoud, vous qui êtes le promoteur de cet événement concernant la Team Cyclo Cancer. Merci Olivier.
Merci Monsieur Fargan de votre accueil, et bonsoir à tous les auditeurs.
Merci à vous, et au plaisir, et bon événement pour dimanche. Bon événement.
Merci beaucoup, passez une excellente soirée.
Ciao. Le face-à-face, c'est parti tout de suite.
Les informés. Le face-à-face.
Et le face-à-face, vous le savez, je présente tout de suite celui qui est là, évidemment, qui reprend son siège. C'est Maître David Libeskind. Bonjour.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, comment ça va ?
Ça va. Très chaud. Encore un climat un petit peu de...
Ouais Maître, il faut de l'énergie. Hein. Ouais, préparer l'hiver, hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai, c'est un climat d'été encore.
Oui, il fait très chaud là en ce moment.
Il fait très chaud, même trop, presque.
Oui, un petit peu trop, quoi.
Vous avez raison. À vos côtés, c'est le révolutionnaire.
Ah bah oui.
Ouais, celui rouge qui se fait remarquer, ouais, exactement. Richie, Thibault, comment ça va Richie ?
Bah écoute, ça va, on constate aussi les
l'homme dans les médias.
On constate aussi les effets du dérèglement climatique, comme vient de le rappeler le camarade David Libaskin. Enfin, non, dès qu'on a l'occasion de soulever, de mettre en exergue le sujet, faut pas s'en priver. Plus sérieusement, quoi que ce soit très sérieux, bah écoute, ça va. Je suis heureux d'être encore une fois sur Beur FM pour discuter, pour débattre de manière souvent passionnée, d'ailleurs, rappelons-le, et ainsi créer de la réflexion.
Sans arracher le micro à Édouard Philippe. En plus, parce qu'il a été arraché le micro hein, en plein meeting. Hein.
Faut le il faire, a agressé hein. Jean Messia aussi, je ne dis pas, parce qu'il est timide. Mais...
Révolutionnaire, jeune révolutionnaire.
Il le faut. Ouais.
Farid Tomsamani, bonjour, le consultant justement. Consultant
bonsoir.
Dans les affaires, comment ça va?
Très bien, merci.
Ça voyage pas mal?
Ça va.
Tout se passe bien pour vous?
Ça va, on va ça pas va. Se plaindre.
Allez, tout de suite, on va démarrer avec ce premier sujet avant de lancer. Vous savez quoi? C'est la réforme constitutionnelle qui a provoqué que LFI dénonce le caprice de monarque, je referme, de Macron. Ça cogne partout, hein, y compris Jean-Luc Mélenchon qui ne loupe pas une seconde, qui dénonce hein, justement qu'il veut augmenter son pouvoir, Macron veut augmenter son pouvoir, qui veut simplifier un certain nombre de choses. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Justement, mettons les pieds dans le plat, et je sais qu'on va en parler. Maître David Limeskid.
Bah, je pense que c'est un effet d'annonce. Emmanuel Macron fait beaucoup d'effets annonces ouais. qui ensuite ne sont pas concrétisés. Après, moi je ne suis pas complètement hostile à une extension du champ du référendum. Après, il faut voir pourquoi. Si c'est juste pour en fait dire l'immigration fera partie en fait des champs du référendum, je trouve ça ridicule. Ouais. Parce que là, c'est complètement politique, c'est politicien, c'est... Voilà, si c'est sur l'écologie,
est-ce qu'on peut appeler ça les caprices de monarque?
Mais des caprices, non, je crois pas, non. Non, je crois pas, mais on va voir. Mais en fait, il annonce beaucoup de choses et il les met pas en application. Donc je pense pas que ça va se faire. Nous, on souhaite en fait qu'il y ait un référendum. Alors, pas sur l'immigration, parce que c'est pas quand même le problème numéro un, mais en tout cas sur l'écologie, sur le changement climatique, oui. Et d'ailleurs, oui. Il me semble-t-il qu'il avait promis un référendum sur cette thématique oui, et on l'attend toujours, malheureusement.
Ouais. Richie Thibault.
Oui, alors il y a
pas... LFI, il cherche quoi?
LFI cherche à se positionner pour la défense d'un autre modèle politique, à savoir la 6e République, et je pense qu'ils sont très clairs en la matière. Bon, après, pour en revenir aux annonces de Monsieur Macron, si on peut appeler ça, qualifier cela ainsi, c'est assez creux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Honnêtement, qu'est-ce qu'il a annoncé de très concret, quoi que ce soit pas très concret? C'est l'élargissement du champ du référendum, à savoir qu'aujourd'hui, il est restreint aux thématiques économiques, sociales, si je ne m'abuse, tu pourras me confirmer cela, David.
Le pouvoir public, l'organisation du
et des services publics, voilà. Et la simplification également du recours au RIP, donc du référendum d'initiative partagée. C'est les deux choses qui ont été annoncées, donc à savoir pas grand-chose. Sur l'élargissement du champ du référendum, il n'a pas annoncé sur quel plan exactement il va être élargi. Puis sur la simplification du recours au RIP, il n'y a rien non plus très précis. Enfin, outre cette analyse-là, il ne va pas rendre, avec ces deux initiatives, la 5e République démocratique. Parce qu'en réalité, c'est l'analyse que je soutiens, alors ça peut choquer, etc., tout un tas de personnes, parce que c'est une analyse qui est peu fréquente et qui n'est pas relayée dans les médias mainstream, mais moi je juge que la 5e République n'est pas en tant que tel un régime démocratique et participatif. C'est un régime qui effectivement s'apparente à quelque chose d'autocratique, c'est-à-dire qu'il y a un homme, le président de la République.
Donc il a raison de dire les caprices de monarque.
Mais il peut le dire ainsi, en tout cas factuellement ce qui se passe, c'est qu'il y a le président de la République qui concentre sous la 5e République, héritée du général de Gaulle, une partie conséquente des pouvoirs exécutifs, entre autres, très large.
Mais je pense pas qu'il le fera parce qu'Emmanuel Macron a perdu peuple. Enfin, donc je pense pas qu'en fait il osera mettre en place en fait un référendum sur une thématique. Moi, non, franchement, en tout cas,
pour faire simple, et je termine là-dessus à ce sujet, la 5e République a une constitution qui garantit une concentration hallucinante d'un grand nombre de pouvoirs entre les mains du président de la République et de l'exécutif, et M. Macron ne souhaite pas mettre fin à cela pour laisser place à plus de participation et donc à des leviers véritablement démocratiques. En l'occurrence, il n'a pas changé de cap depuis le début de son mandat en la matière.
Eh bien, on revient en parler avec Farid Tamsamani, justement, et son avis, et son point de vue, 0153483000. Mais vous savez quoi, les informés des quartiers, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression, on revient pour continuer de parler de ces caprices de monarque.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés des quartiers avec Farid Temsamani, avec Maître David Limeskid, avec Richie Thibault. Et tiens, je vais solliciter nos auditeurs pour savoir si vraiment ils considèrent un peu comme Jean-Luc Mélenchon que le président de la République, Emmanuel Macron, qu'on a affaire à des caprices de monarques. C'est parti, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Est-ce que vous pensez comme Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous considérez que Emmanuel Macron se comporte en caprice de monarque? Bah, je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000. Farid Temsamani, tiens, on vous a pas entendu.
Oui.
Et notamment, réaction à ce que disaient Richie Thibault et Maître David Libeskind.
On attend de voir parce que effectivement on annonce beaucoup de choses. Enfin, le président de la République annonce beaucoup de choses. J'ai envie de dire, chaque président en fait veut sa réforme constitutionnelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait lancé l'idée dans son premier quinquennat et ça a été très vite balayé par l'affaire. Si je ne dis pas de bêtises, par l'affaire Benalla déjà à l'époque. Donc là, on annonce pas mal de choses. Il y a des choses. Bon, c'est normal que l'opposition, notamment. Jean-Luc Mélenchon ne soit pas forcément de cet avis-là, puisque lui il prône officiellement la 6ème République.
Ouais. Maintenant, il y a légèrement le micro vers votre bouche comme ça, voilà.
Oui, pardonnez-moi.
Ah, voilà, c'est mieux.
Et en fait, il y a un élément moi qui m'intéresse, puisque on a beaucoup critiqué à juste titre le fait que la possibilité de faire un référendum d'initiative populaire était quasiment impossible. Je sais pas
c'est
si
c'est quasiment
vous souvenez.
Impossible.
C'est quasiment impossible si je dis
c'est
pas de bêtises.
C'est une cohabitation entre le Parlement
voilà,
et.
Or là, il propose quand même peut-être d'alléger les conditions. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
Jusque-là, Emmanuel Macron n'a pas été très fan de la démocratie participative.
Ah, je suis d'accord, mais
la démocratie
au-delà
directe,
de la personne.
Donc s'il allège, ce ne sera pas en faveur en fait, du peuple, entre guillemets, qui pourra mieux
participer. Non, mais là, c'est une interprétation que tu fais. S'il allège pour que le RIP puisse avoir lieu un jour, bah, moi, je dis pourquoi pas.
En fait, tant que le Parlement est le principal décisionnaire du VIP, RIP, pardon.
Non, mais là, il te propose de l'alléger, de changer les modalités.
Oui, enfin, changer
les modalités. On ne les connaît pas encore, tu as raison.
Enfin, mais je ne vois pas, en fait,
il propose de modifier.
Je vois pas en quoi le Parlement serait à l'initiative d'un référendum. C'est complètement contre démocratique.
Mais là, il te propose de changer dans la Constitution le fait que potentiellement, tu peux...
Non, mais là, en fait...
On peut imaginer qu'il puisse sauter le Parlement.
Là, on peut imaginer. Pour l'instant, on ne peut rien imaginer, puisque, en fin de compte...
Ah, je suis d'accord avec toi.
C'est un homme d'État de la forme. En fait, il fait beaucoup de forme. Mais quant au fond, il n'annonce jamais rien.
De toute façon, moi, je ne crois pas beaucoup à cette modification constitutionnelle. Pour une raison très simple, c'est qu'on annonce tellement de choses. Il veut plaire quasiment à tout le monde. C'est quasiment impossible de le faire.
Alors, Richie Thibault, est-ce que, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, veut augmenter clairement son pouvoir?
Oui, dans une certaine mesure, mais enfin, pour revenir sur cette histoire de référendum d'initiative partagée, il n'y a rien de très révolutionnaire, en fait, dans ce qu'il propose. Déjà, il n'y a rien de très concret, il n'y a rien de très précis, c'est-à-dire qu'on ne sait pas en l'occurrence de quelle manière il souhaite traduire cette volonté de simplifier, soi-disant, ce référendum d'initiative populaire, et pas populaire, lapsus révélateur. Justement, c'est en cela qu'il pose problème, c'est-à-dire que l'initiative n'est pas juste et uniquement citoyenne comme le souhaitaient les Gilets jaunes, comme l'ont porté. Ça a été, à un certain moment, du mouvement des Gilets jaunes, une des revendications principale, ce référendum d'initiative citoyenne. Or là, le seul outil référendaire qui, dans une certaine mesure, fait appel aux citoyens, mesure qui est très minime, c'est ce référendum d'initiative partagée. Et dans les faits, il est effectivement quasi impossible de faire en sorte qu'il arrive à son terme. On l'a vu avec la tentative qu'il y avait eu lors du sujet sur la privatisation de l'aéroport de Paris. Il y avait une tentative, effectivement, de référendum d'initiative partagée. Elle avait été abandonnée, puisque, justement, c'est quasiment impossible dans les fait concrètement et Monsieur Sarkozy.
Qu'il y avait énormément de gens qui se sont exprimés.
Totalement, oui, il y avait plus d'un million, un million cinq.
Ouais, j'aimerais comprendre parce que vous savez, là, il fait son cheminement, cette histoire de Jean-Luc Mélenchon qui dénonce le fait que Macron veut augmenter son pouvoir. Vous savez, je me suis amusé. Attendez, il dit n'importe quoi peut-être, mais en tout cas, ça fonctionne. Je prenais mon café classiquement parce que j'aime bien tendre l'oreille parfois, vous savez, dans les bistrots, etc. J'entends l'oreille, et vous savez quoi, j'assiste à une discussion sur le fait que, justement, ils sont d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, beaucoup pensent comme Jean-Luc Mélenchon, à savoir que Macron veut augmenter son pouvoir. Certains pensent même, dans les bistrots, je vous promets, je prenais mon café tranquillement et j'entendais cet échange de discussion des gens qui étaient des voisins disant que Macron, finalement, il veut peut-être changer la Constitution parce que le troisième mandat, il le veut, il le souhaite.
Pourquoi Mélenchon dit n'importe quoi? Parce que même si Bon, donc, je ne crois pas.
Donc ça émerge. Hein.
Ça arriverait autant de pouvoir dans les mains d'un président. C'est pas lui qui en profiterait tout simplement.
Non, mais après voilà. Honnêtement,
je suis sur le fait que les gens commencent à penser qu'ils voudraient un troisième mandat.
En fait, alors, en France, c'est impossible.
Non, ouais. Non. Alors deux secondes, parce qu'il y a une question constitutionnelle. Premièrement, en fait, Macron a dit lui-même publiquement que c'était nul, en fait, de limiter en fait à deux mandats. Voilà. Donc, je pense qu'il a en tête un troisième mandat. Il avait l'ancien
consécutif, je veux dire.
Oui.
C'est possible, ça. Et c'est possible.
Maître
David Libeskind, est-ce que c'est possible?
Non. Alors, aujourd'hui, c'est pas possible. Alors, premièrement, parce qu'il faudra en fait que 3/5 du Congrès, l'Assemblée nationale, faudra que 3/5 des parlementaires acceptent cette réforme de la Constitution, compte tenu que de toute façon, au Sénat, mais ça, c'est la première option. Je parle des deux options. Au Sénat, en fait, la majorité est à droite, donc elle acceptera jamais.
Elle est à droite.
Deuxième option,
même sa propre majorité,
c'est le référendum. Deuxième option, c'est le référendum, mais je ne pense pas que le peuple soit partisan, qu'il ait un troisième mandat. Mais je pense qu'il avait jeté comme ça.
Le peuple, c'est aussi les auditeurs. 53-48-3000, on voudrait vous entendre.
Dire qu'il ne souhaitait que
Emmanuel Macron peut envisager un troisième mandat.
Aujourd'hui, il ne peut pas, techniquement.
C'est-à-dire revenir un peu comme Sarkozy voulait, c'est-à-dire une fois qu'il avait quitté le pouvoir, revenir après, ça, c'est pas impossible, par contre.
Non, mais puis après, honnêtement, il faut cesser d'être.
Certains font la comparaison avec Vladimir Poutine. Il est parti, il a nommé son premier ministre. Qui a été retrouvé président et ensuite après il s'est retrouvé président.
Ça serait scandaleux, mais oui.
Adi, moi je pense qu'il ne faut pas être dupe. Je pense qu'aujourd'hui, réalité, c'est que honnêtement, Macron n'a, je pense, aucun intérêt à changer la Constitution dans la mesure où celle-ci lui donne déjà énormément de pouvoir. Je pense qu'on est un des régimes dits représentatifs dans l'Occident où le président de la République détient autant de pouvoir, à savoir depuis le coup d'État du général de Gaulle qui a institué la 5e République, qui ensuite l'a fait publicité par le biais d'un référendum. Aujourd'hui, Macron, lorsqu'il gouverne, et par exemple lorsqu'il souhaite faire passer sa réforme des retraites, il est ultra minoritaire dans le pays. 9 Français sur 10 la refusent. Et pourtant, elle passe parce que justement des outils constitutionnels tels que l'article 49.3 lui permettent d'imposer sa volonté, et c'est en quelque sorte le fait du prince. Pareil, dans notre Constitution, il y a l'article 11, si je ne m'abuse, et l'article 16, notamment, qui lui permettent des prérogatives en cas de situation d'urgence de prendre tous les pouvoirs. Donc moi, je pense qu'honnêtement, on ne peut pas faire mieux si on se place de son côté en termes de densification des pouvoirs exécutifs.
Je dis juste que cette constitution, aussi critiquable
qu'elle
soit,
elle est archaïque par ailleurs.
Voilà, probablement, comme ça vient d'être dit, juste 65 ans, et que jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, la majorité du peuple français ne l'a jamais balayée. Et j'invite, puisque c'est un peu l'idée de dire. C'est compréhensible de vouloir basculer dans une autre république, notamment la 6e, c'est l'argument essentiel de la France insoumise. On verra si aux prochaines élections cet argument-là tient la route ou pas. Moi, ce que je pense,
vous êtes favorable pour une 6e?
Non, moi je suis absolument pas favorable pour une raison très simple. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la constitution dans notre pays, la 3e et la 4e étaient complètement ingouvernables. Je ne dis pas que la 5e est adaptée à notre époque, je dis bien qu'il faut bien la faire évoluer, mais basculer dans une 6e République, c'est complètement faux. Je rappelle juste que la réflexion de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas s'il l'a fait en France ou au Maroc.
Il l'a fait.
Probablement pas au Maroc.
Non, il l'a fait en France.
Voilà, parce que pas en France. Je pense qu'il n'est pas assez
pas
fou.
Maroc,
voilà, ça s'appelle de l'hypocrisie, tout simplement.
Non, mais enfin honnêtement, Richie, moi je pense que les gens. Les gens aspirent, je sais pas si c'est la 6e République ou la première démocratie, appelons cela comme on le souhaite, mais les gens dans le pays aspirent à autre chose. Je veux dire, si aujourd'hui il y a autant d'abstention, si les jeunes de ma génération. C'est un sujet très intéressant. Si les jeunes de ma génération s'abstiennent parfois à plus de 70-80%, il faut se poser des questions. C'est que le modèle actuel ne leur convient pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Les quartiers populaires, je vous en parle. Puis, même pas, ils votent pas.
Mais c'est ça. Puis regarde, en 2005, lorsqu'il y a un référendum et que Nicolas Sarkozy, si je ne m'abuse, Chirac, et ensuite Sarkozy qui s'est inscrit dans son héritage par le biais de la ratification du traité constitutionnel, quand il soumet aux Français justement ce traité européen constitutionnel européen et que les Français le refusent majoritairement, et bien ensuite il est ratifié par Sarkozy, si je ne m'abuse,
dans le Parlement.
Par le Parlement, mais à l'initiative du président de la République. C'est juste hallucinant. Et ça a engendré du dégoût chez les gens.
Alors, complètement d'accord. Il l'avait habillé par un nouveau.
En fin de compte, il y avait possibilité de réformer en fait la constitution par le biais du Parlement.
Par contre, je suis pas certain que. Mais là, pour répondre en 2023, puisse avoir.
Pour répondre à la question de la 6ème République, je pense que. Bon, l'abstention, c'est, voilà, c'est pas un phénomène récent. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'il y a de l'abstention en France.
Non, mais il faut corriger
après,
ça.
Après, je pense que oui, il faut une 6ème République. Alors, peut-être pas celle de Jean-Luc Mélenchon, hein. Voilà. Mais en tout cas, voilà, qui laisse place, en fait, à plus de participation citoyenne, à la mise en place soit d'une première démocratie ou d'une démocratie semi-directe. On a des expériences un petit peu dans tous les pays du monde, notamment la Suisse, même si c'est un régime fédéral. Mais je pense, oui, faut réformer. Après, c'est pas la priorité en tant que telle, parce que la 6ème République, ça fait des années, 20 ans que Mélenchon en parle. Et bon, ça prend pas dans l'opinion publique. Mais en revanche, c'est pas les priorités. La priorité.
Et pourquoi ça prend pas?
Mais ça, parce qu'il y a d'autres priorités, il y a le pouvoir d'achat, ouais, parce que les gens, ils pensent déjà à manger. Ils ne pensent pas, en fait, à ce que la République soit réformée ou abrogée.
Mais au-delà des priorités numéro une, effectivement, du
c'est le pouvoir d'achat, de toute façon.
Du pouvoir d'achat,
et même maintenant.
Mais même ceux qui s'intéressent uniquement à cette logique constitutionnelle, etc., ça ne prend pas, tout simplement, c'est parce qu'en fait, ils connaissent la réalité démocratique du pays, tout simplement. Et notamment dans un contexte de décentralisation, très avancé, puisqu'en France, on est quand même très avancé en la matière. Et puis, excusez-moi, la 4ème République, c'est pas si loin.
Il y avait un changement de président de conseil tous les 6 mois. Il y avait une instabilité politique.
Exactement.
Donc le général de Gaulle a voulu effacer ça en donnant plus de pouvoir au président de la République, notamment à lui-même. Mais bon, on peut trouver un régime intermédiaire mixte.
Je suis d'accord, il faudra peut-être le faire évoluer.
Après le débat, pour moi je suis un étudiant en histoire, donc effectivement, je m'intéresse aux différentes républiques que nous avons connues dans le pays, à savoir la Première République de 1700, dans la foulée 1789, qui était largement imparfaite à de nombreux égards, la Convention, enfin bref, ensuite la Troisième République que tu évoquais. Mais moi, là, je pense que la question fondamentale que l'on doit se poser ce soir, et notamment que les auditeurs et auditrices vont se poser, c'est: est-ce que vous vous considérez suffisamment intelligente, cultivée pour prendre part au débat politique? Moi, je suis convaincu que oui. Moi, je suis convaincu que les gens qui nous écoutent, eh bien, ils ont la maturité nécessaire, ils ont l'intelligence nécessaire, la culture et le brio nécessaire pour prendre en main leur destin. Moi, j'en suis fondamentalement convaincu. Il y a finalement deux courants de pensée en ce qui concerne l'action politique. Il y a ceux qui disent la politique, elle est faite pour les experts, elle est faite pour les élites, elle est faite pour une minorité des gens. Moi, je pense que les gens collectivement peuvent se gérer. Ça a été fait à travers l'histoire.
Vous en pensez quoi ?
Durant la Commune de Paris.
Non, après,
et
moi,
je pense qu'il faut essayer.
Il y a un côté un peu méprisant de dire, en fin de compte, que les gens aujourd'hui sont mûrs politiquement pour pouvoir, en fait, se gouverner par eux-mêmes, si je veux dire. Après, ils ont.
C'est impossible.
Voilà.
Oui,
non, mais après.
Moi, je suis convaincu que si.
En fait, la démocratie. Non, mais en tout cas, la politique de la nation ne peut pas être réservée à une élite ou une classe sociale qui est la classe politique. Les énarques, etc., puis les bourgeois de l'économie.
Ça a changé.
Les grands patrons.
Regardez l'Assemblée nationale.
Non, voilà, les grands patrons.
Ça a changé.
Oui, non, ça n'a pas
quand
changé.
On
parce
voit,
que vous avez
quand 4, on voit le cas, quand on voit le cas de figure de Rachel Keke.
4% d'ouvriers à l'Assemblée nationale, 4% d'ouvriers, donc rien n'a changé. Alors évidemment, on la met en avant parce que, justement, c'est un ovni parmi ces autres collègues députés.
Ah, c'est sûr, c'est un ovni.
Voilà, c'est un ovni. Mais je pense qu'en fin de compte, c'est pas...
La majorité des macronistes à l'Assemblée nationale ne sont pas du tout énarques. Hein.
Pas que macronistes.
C'est des professions supérieures, libérales,
avocats... Et pas que macronistes, c'est la raison, Farid.
Chef d'entreprise, etc. En fait,
Très peu de chefs d'entreprise chez les députés. Hein.
Non, mais en tout cas, ce régime-là maîtrise.
C'est essentiel. Non, je veux même te dire, l'immense majorité des députés sont essentiellement des gens qui sont protégés par le statut du fonctionnariat.
Voilà, c'est des fonctionnaires.
Et tu parlais des énarques, etc. En fait, en réalité, c'est des fonctionnaires hauts ou petits, notamment, parce que on parlait de la France insoumise. Mais la France insoumise, c'est essentiellement des fonctionnaires qui sont protégés en tant qu'enseignants.
C'est pas vrai. Non,
je les côtoie, je peux t'en parler.
Moi, j'ai regardé les profils des différents.
Je te confirme.
Ce qui est certain, par contre, là où t'as complètement raison, c'est que il faut toujours laisser le peuple avoir le dernier mot. Ça, c'est fondamental.
C'est le cas.
Et notamment, on l'a vu dans quoi ? On l'a vu, tu parlais tout à l'heure de la réforme des retraites, où en fait, les gens, quand même, ont globalement donné un certain mécontentement et on est quand même passé outre. Et ça, ça abîme effectivement cette notion démocratique. Je suis un peu moins utopiste sur le fait que sur toute décision, on doit consulter le peuple.
C'est pas ce que je dis. Moi, je dis qu'on peut tendre vers ça. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, parce que je pense qu'il y a d'autres débats aussi qui sont très intéressants, mais ce qui est sûr, c'est que moi, et je le dis très calmement, je n'appelle pas à une démocratie un régime dans lequel, lorsque les gilets jaunes sortent en 2018 dans la rue pour demander le RIC, pour demander un peu de démocratie, à savoir pouvoir être investi dans les prises de décision, et bien où on leur tire dessus avec des LBD 40. Moi, je ne cautionne pas que l'on fasse passer par 49-3 une réforme des retraites qui va condamner les gens à se prendre 2 ans de plus au boulot.
Est-ce que vous avez le sentiment que les habitants des quartiers populaires se sentent concernés par tout ça ?
Mais pas du tout.
Pas du tout.
Ils n'ont pas voix au chapitre.
Non, mais pas du tout. Ils ont d'autres préoccupations.
Ils sont aussi, on leur donne pas voix au chapitre. Oui, voilà, mais la réforme des retraites.
Alors ça les concerne, hein, au premier chef.
Farid, qu'est-ce que vous dites ?
Mais moi, je pense que ça les concerne même davantage que la population.
Totalement.
Le seul truc, c'est que, comme tu le dis si bien, c'est qu'en fait, ça n'est pas la priorité du quotidien. Donc du coup, le laps de temps à réfléchir ou à donner son temps sur ces thématiques-là est beaucoup plus faible dans les quartiers populaires qu'ailleurs. Ça, c'est une réalité. Quand on a la chance d'être protégé, d'avoir déjà assuré le train de vie de ses enfants, effectivement, on peut se permettre de réfléchir davantage sur ces questions.
J'ai grandi, moi, dans les quartiers populaires, dans les zones prioritaires, etc. Et ce que je vois, c'est que les gens, ils se disent concrètement dans la tête, la politique, c'est pas notre affaire, c'est fait pour ces gens-là qu'on voit à la télé. C'est un problème majeur.
C'est ça qu'il faut dire.
C'est surtout que les choses ne changent pas. Ouais. Même que
je lance la pause candidat, et on se retrouve juste dans une poignée de minutes avec les informés des quartiers. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les informés des quartiers avec Maître David Libeskid, avec également Richie Thibault et enfin Farid Temsamani. Nous allons parler, vous savez quoi ? Eh bien tout simplement de la déclaration de Michel-Édouard Leclerc qui met en garde avant l'hiver. Oui, on se pose la question, elle s'impose d'elle-même la question parce que il met en garde que les Français... contre l'inflation, ça ne reviendra pas en arrière. Et surtout, l'inquiétude grandissante. Et puis surtout, c'est un lanceur d'alerte, en quelque sorte, Michel-Édouard Leclerc, qui dit clairement, attention, ça ne va pas être simple pour vous les Français. Alors, j'ose même pas imaginer les habitants des quartiers populaires et les zones rurales. Maître David Libeskid.
C'est
des révélations quand même.
Non mais attendez, c'est le patron.
Et dit, ne vous faites pas duper.
C'est le patron du supermarché, il vous dit en fait, on ne reviendra pas au prix d'avant l'inflation. Enfin, je veux dire, ça je crois que tout le monde le savait, il y a rien de nouveau.
Les gens pensent que ça va revenir comme avant.
Parce que lui fait des marges. En fait, alors, je crois que Rétil a des chiffres, mais les supermarchés, en fait, font des milliards de marges. Donc, il n'a aucun intérêt, en fait, à revenir, en fait, au prix d'avant. C'est un chef d'entreprise, donc il doit avoir une entreprise profitable.
Je veux pas prendre sa défense, parce que, franchement...
Le fonctionnement des
Leclerc, en fait, sont différents du reste. C'est pas un groupe... Je veux dire, chaque Leclerc est quasiment indépendant. En franchise. Non, c'est pas des franchises.
Ils sont vraiment indépendants.
Et du coup, alors t'as des centrales d'achat, certes, mais ce que je veux dire par là, c'est que il sait pertinemment qu'en fait, les marges même de ces Leclerc, historiquement, en fait, elles sont pas si importantes, parce qu'en fait, j'ai pas envie de le défendre particulièrement.
C'est un patron, plus les marges de ces petites entités sont importantes.
Si tu connais l'histoire du groupe Leclerc. Tu sais que c'est pas leur logique, c'est pas Carrefour, c'est pas Auchan, si tu veux, où la seule logique elle est purement économique, et je suis complètement d'accord avec toi. Leclerc, c'est quand même autre chose. Et là où ce qui veut dire par là, c'est que pour pouvoir vendre, eux ils font de la marge sur quoi ? Ce sont des commerçants, ce sont pas des producteurs, ce sont des commerçants. Et donc il se dit voilà, ce qu'on achète nous quand on achète, je sais pas, je dis une bêtise, le paquet de ceci ou de cela, en fait les producteurs se sont énormément gavés, notamment dans l'agro-industrie.
Alors dites-nous les chiffres. Moi je pense qu'il faut mettre
les termes. C'est très important aujourd'hui la situation, quelle est-elle en France? Il y a un contexte inflationniste qui est juste inédit. Concrètement, les gens n'arrivent plus à bouffer. Au mois de novembre, les Restos du Cœur et c'est pas rien, hein, vont pour la première fois de leur histoire devoir refuser des bénéficiaires. Mais exactement, c'est juste hallucinant. Je ne sais pas si concrètement on réalise.
Y compris dans les quartiers populaires.
Mais prioritairement dans les quartiers populaires, dans les zones rurales. C'est juste hallucinant. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que on invite Michel-Édouard Leclerc est souvent invité sur les plateaux de télévision en ce moment, et j'ai l'impression qu'il y a quand même un angle mort sur le plan journalistique que j'aimerais mettre en exergue. C'est celui des marges, des bénéfices, du chiffre d'affaires et des profits de la grande distribution. Pour moi, c'est une question fondamentale. Parce que, à la rigueur, effectivement, s'il y a ce contexte inflationniste et que la grande distribution elle-même ne tire pas son épingle, bon, soit, ça interroge pas tant que ça. En réalité, moi, j'ai quelques chiffres.
Allons-y.
Pour le groupe Leclerc, en l'occurrence, si on prend l'ensemble des magasins,
voilà,
il y a eu 43,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, soit une augmentation de entre 5 et 10% du chiffre d'affaires.
Voilà. Donc, c'est pas
ailleurs, par ailleurs, en 2020, le magazine Force estimait la fortune de Michel-Édouard Leclerc à 4,7 milliards d'euros, sa fortune personnelle. Alors moi, là où je m'interroge, c'est que c'est bien beau de dire les prix...
Je termine.
Non, mais
tu ne peux pas terminer sur une bêtise.
Non, tu
annonces un chiffre d'affaires. Dis-nous combien est le résultat net du groupe.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fortune de M. Michel-Édouard Leclerc, qui est quand même le gérant principal du groupe, est en constante augmentation. En 2020, il était déjà à 4,7 milliards d'euros de fortune personnelle. Donc moi, je pense que c'est assez révélateur. C'est pas la crise pour ces gens-là.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là?
Quand
vous nous révélez tout ça veut dire quoi?
Qu'est-ce
que vous voulez nous dire par là?
C'est pas la crise pour lui, t'as raison.
Mais c'est ça, moi, ce que je veux dire par là...
Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là?
Mais moi, ce que je veux dire,
les marges augmentent, donc...
C'est que quand il y a la...
Attendez, qu'est-ce que vous voulez...
Moi, c'est très simple.
Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez nous dire par là?
Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je veux dire que, admettons, la France, c'est pas du tout le cas, hein, mais admettons, c'est une maison, tu vois, où il y a une famille commune dans l'idée de nation. Alors, on en est très loin, on est des années-lumière. Et bien qu'il y a des matières, des ressources en commun, etc., ben moi, je pense qu'il faut le partager. Quand on a un gâteau pour 67 millions de personnes, il faut le partager le plus équitablement possible. Alors, certains diront c'est de l'utopie. Moi, je dis non, c'est le contraire de l'égoïsme. Or, aujourd'hui, c'est pas la crise pour tout le monde. Il y en a certains qui s'en mettent plein les poches pendant que nos frères, nos sœurs, nos parents, nos grands-parents, et bien connaissent la crise et connaissent la misère. Et moi, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui voudraient témoigner aujourd'hui à cette antenne, qui aujourd'hui connaissent la galère, qui comptent au centime près, qui sautent des repas en France. Des Français en France qui se privent de soins essentiels. Il y a des gens dans notre pays qui se privent de soins. Alors oui, le partage des richesses se pose. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir dans ce pays, la France, 10 millions de pauvres d'un côté et de l'autre, l'homme le plus riche de l'humanité, à savoir M. Bernard Arnault. Alors, je ne dis pas qu'il faut...
Il a été élu, attention, patron préféré des Français. Hein.
Mais
parce qu'il fait beaucoup de communication, c'est tout.
Non, mais c'est ça. Mais
non, c'est un homme d'influence. C'est un homme d'influence.
Tu parles de Michel-Édouard Leclerc.
Oui.
Non, mais parce que depuis des décennies, il fait de la communication. Rich a donné le chiffre. La marge du groupe Leclerc a augmenté. Donc, évidemment, il touche des dividendes là-dessus, hein, Michel-Édouard Leclerc. Alors, effectivement, l'organisation économique, l'organisation juridique est complètement différente que des autres grandes enseignes, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il touche un pourcentage sur évidemment les profits des supermarchés Leclerc, ce qui est parfaitement normal. C'est normal, ils utilisent sa marque, ils utilisent son nom, mais qui nous disent pas en fait sur les plateaux télé, oh mais on va pas revenir au prix d'avant, etc., etc. Mais avec la marche qu'il a faite et qu'a annoncé Rachi, moi je trouve ça un peu hypocrite. Donc il fait beaucoup de communication,
mais
depuis des décennies il fait la communication sur les plateaux télé.
Que l'inflation, on va pas revenir au prix d'avant. Enfin, effectivement, c'est illogique sur le plan économique. Néanmoins, moi, la vraie question, le véritable enjeu, c'est l'augmentation des salaires. Moi, je suis pour l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est pas révolutionnaire, c'est pas du communisme, c'est du bon sens.
Et c'était en France jusqu'à,
sur les prix alimentaires,
si je dis pas de bêtises, en 73 ou jusqu'en 75.
Effectivement,
c'est Giscard qui est revenu dessus.
Oui, puis ensuite.
Et nos voisins européens, je prends l'exemple d'un pays que je connais bien puisque j'y vais régulièrement, qui est la Belgique, les salaires sont indexés.
Mais c'est ça, les prix augmentent, donc les salaires augmentent aussi.
Ça,
c'est
je suis complètement d'accord avec toi, et je trouve ça scandaleux qu'en France, il n'y ait pas ce débat-là.
On préfère parler d'Abaya.
Et en plus, l'inflation qu'on nous annonce en termes de communication, c'est une inflation sur des paniers moyens. En réalité, est beaucoup plus importante sur un certain nombre de produits, et notamment pour les gens les plus faibles. Et effectivement, derrière, les salaires n'augmentent absolument pas. Et ça, c'est
totalement. Et justement, Adil, si je peux me permettre de passer un message aux auditeurs et auditrices, on en parlera vendredi prochain. Le vendredi 13 octobre, à l'appel de l'ensemble des forces syndicales du pays, il y a une journée de mobilisation très importante pour l'augmentation des salaires, pour dénoncer ce contexte d'inflation qui conduit à la misère. Et ça on se suivra d'une journée, le 14 octobre, qu'on organise avec des camarades gilets jaunes notamment, de mobilisation nationale, de blocage devant les supermarchés, voire plus, pour exprimer cette colère. Et moi, j'appelle les gens à y prendre part, parce que oui, il faut se plaindre, oui, il faut dénoncer cette situation de misère, de galère permanente, mais il faut aussi agir pour effectivement mettre en place de véritables solutions telles que l'indexation des salaires sur l'augmentation des prix.
Farid Tamsamani, pardon, oui. Maître David Bessit considère que c'est de l'hypocrisie et démago de la part d'Edouard
c'est
Michel.
C'est de la communication. Depuis des
vous dites quoi, vous, qui êtes consultant dans les affaires, justement?
Non, alors,
vous dites quoi?
Bien sûr que c'est de la communication.
Oui, voilà, c'est de la communication.
Le groupe Leclerc, en fait, est connu pour faire de la communication. Et lui, le fait plutôt bien. Là où je nuance toujours, c'est que les gens qui travaillent, alors, pas 100% naturellement, mais les gens qui travaillent généralement pour les supermarchés Leclerc sont pas les moins bien traités du secteur. C'est ça que je veux dire. La comparaison. Tout à l'heure, on a annoncé des chiffres qui sont des chiffres d'affaires.
C'est les caissières qui gagnent 100 euros de plus.
Mais figure-toi que chez Leclerc, en fait, elles sont pas si si maltraitées.
Elles ont pas 100 euros de plus, peut-être
que chez Carrefour, chez Auchan.
Oui, ouais. Bah écoute, c'est de la maltraitance.
Mais la réalité, c'est celle-ci.
Bah la réalité, c'est que tu vis pas en fait avec un SMIC, même ça. 100 euros de plus, c'est de la maltraitance. Je suis désolé.
Mais qu'est-ce que t'en sais?
Mais parce que moi-même, j'ai pas toujours été avocat, camarade.
Est-ce que moi je t'ai dit,
donc moi j'ai connu la galère, j'ai connu la précarité. Toi, tu l'as peut-être pas connu, mais en tout cas, moi j'ai connu la précarité.
Je t'ai jamais dénigré sur ton train de vie.
Mais non, mais tu me dis qu'est-ce que
c'est toi qui parles. Toi, tu vis pas avec un SMIC.
Tu me poses la question.
C'est toi qui parles, c'est pas moi. Je parle du SMIC. C'est pas
moi.
Mais t'en sais rien.
Bref. Le SMIC, c'est pas le sujet.
Mais c'est toi qui es arrogant.
Non, messieurs, s'il vous plaît, messieurs.
On va tourner un truc,
ne soyons pas dans les querelles.
Tu connais pas ma vie, donc raconte pas de bêtises.
S'il vous plaît, restons pas sur la vie. La vie privée, ça vous appartient. C'est pas.
Il m'attaque, moi.
On n'a pas.
C'est toi qui m'attaques, tu parles de SMIC.
Calmez-vous.
Alors, comment ils peuvent s'en sortir, justement, quand on pense justement aux habitants de zones rurales, les quartiers populaires? Moi, j'en parle régulièrement ici. Non, mais est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui de s'en sortir? Parce que,
bien sûr.
Farid Tamsamani, vous êtes issu des quartiers populaires. Comment fait-on?
Objectivement, quand on vit aujourd'hui dans un quartier populaire,
il a cité les Restos du Cœur tout à l'heure.
Oui, mais c'est extrêmement difficile. Faut pas se leurrer. Alors aujourd'hui, le gouvernement lui se cache sur le fait qu'on est quasiment en plein emploi. La difficulté, c'est qu'en fait, c'est très souvent des emplois très précaires et les gens cumulent des emplois, même
c'est
la réalité.
Voilà, c'est ça que je voulais entendre.
Cumulent des emplois dans les quartiers populaires. Et donc du coup, c'est une fausse bonne nouvelle d'une certaine manière, parce qu'en vérité il n'y a pas d'augmentation véritablement des salaires. Il y a des augmentations pour les personnes qui ont des qualifications, mais dans les quartiers populaires, les gens vivent vraiment dans la précarité.
Moi je suis étudiant, mais moi je veux juste lancer une alerte. Je lance souvent quand je viens ici, surtout pour les étudiants qui sont issus de milieux populaires comme moi, mais c'est l'urgence. Il y a des étudiants qui cumulent, en plus de leurs études, à savoir 25, 30, 40 heures par semaine, et bien ils cumulent des jobs précaires, demi-temps parfois, chez McDo le soir, en pleine nuit. Enfin, c'est juste horrible. Aujourd'hui en France, il y a alors j'aime pas trop l'expression de tiers-mondisation, néanmoins il y a des injustices profondes. C'est-à-dire que moi je dis aux gens bougez-vous parce que il y a des repas à Versailles à 6 millions d'euros et il y a des gens qui crèvent de faim.
Bah malheureusement comme disaient nos deux camarades, en fait on se dirige vers un modèle américain. Aux États-Unis, il y a les retraités qui travaillent, ils ont deux ou trois emplois et malheureusement
je les vois là, c'est vrai dans les McDo,
malheureusement on se dirige vers ça.
Vous voyez de plus en plus de retraités
dans les McDo, même en France.
En France.
À la rue, j'ai vu
dans les McDo les retraités, ça m'a choqué.
Aux États-Unis, c'est
comme aux États-Unis.
Comme
aux États-Unis, là j'ai vu ça depuis l'année dernière.
Il y a plus de 400 000 personnes à la rue en France, faut se bouger.
Merci messieurs, merci à Farid Tamsamani, au plaisir. Merci à Mathieu, David Beskin, merci à Richie Thibault, Solal à la réalisation. Time Sport, Bilal Lenman, 20h. Vanessa, 21h. Je vous souhaite un excellent week-end, les amis. Profitez-en bien et à lundi avec autant de plaisir, mais surtout. On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.